Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Le livre de Jonas, c'est un petit livre dans la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament et il porte le nom du prophète, donc Jonas. Et nous allons méditer sur le chapitre premier de ce livre. Alors, vous dire où ça se trouve, ça va être difficile. Si je vous parle d'Abdias juste avant, il y a une page, ça ne va pas vous renseigner beaucoup, hein. Et c'est avant Michée, voilà. Alors, il fait partie de ce que l'on appelle la catégorie des petits prophètes, enfin parce que les écrits ne sont pas trop volumineux à côté de Jérémie, Ézéchiel ou encore, Ésaïe. Mais il dit des choses intéressantes, Jonas. Il parle de lui et ce qu'il dit, eh bien, peut nous servir encore aujourd'hui. Alors, on va lire. Dans le livre donc, de ce Jonas, chapitre 1er, on va lire le chapitre, il n'est pas très long. Alors voilà, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous ?» et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu ?» Il leur répondit, « Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Voilà pour notre lecture. Alors pour ceux qui connaissent la Bible, vous savez de quoi est question. Mais peut-être pour ceux qui découvrent, eh bien il y a un commentaire à faire sur cette mésaventure de cet homme qui s'appelle Jonas. Je voudrais vous le présenter d'abord. Jonas est un personnage dont le tempérament s'accorde mal avec le nom qu'il porte. Est-ce que vous connaissez la signification du nom Jonas ? Ah, vous allez le savoir. ça veut dire colombe. Et quand on connaît Jonas, il était tout sauf une colombe. La colombe, c'est la paix. C'est l'emblème, finalement, de ce qui unit ou réunit les hommes. Voilà, et puis il y a naturellement, à travers le plumage blanc, immaculé de la colombe, ça montre naturellement l'image de la sainteté, enfin l'image de la pureté en tous les cas. Alors, son nom veut dire colombe, nous l'avons expliqué. Son aventure est pour le moins inédite, parce que c'est un personnage, et on va le découvrir ensemble, qui joue un peu avec Dieu en quelque sorte. Il veut voir jusqu'où il peut aller et comment Dieu va réagir avec lui. Vous savez, des Jonas, il y en a toujours eu dans l'histoire. Peut-être que parfois il y a des hommes qui essaient de voir jusqu'où on peut aller. Il y a parfois des chrétiens qui, comme le personnage en question, veulent pousser les limites. Est-ce que Dieu, tu peux faire? Ou est-ce que si je vais et je marche sur ce terrain-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et comment tu vas réagir? Ça, c'est Jonas. C'est un homme de foi, c'est un croyant, c'est un prophète, c'est pas n'importe qui. Et son caractère atypique fait tout simplement de lui le type même, alors ne soyez pas choqués par les termes que je vais employer, mais le type même de l'égoïste. Il ne pense qu'à lui, parce qu'il s'agit, dans la mission que Dieu va lui confier, il s'agit d'une nation, mais d'une ville entière, et pas n'importe laquelle, c'était une capitale à l'époque, dans l'Antiquité. Alors, il met en avant son égo, ou égoïste si vous voulez. Il est d'un tempérament très individualiste, c'est-à-dire comme dans l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous savez, les gens ils pensent pas mal et beaucoup à eux, et par surcroît, il est irritable, et je vais vous dire pourquoi, parce que tout ce qui ne va pas comme il le veut, ça le met en colère. Je vous conseille de lire la suite, il y a 4 chapitres, ça ne va pas aller très loin, mais quand vous serez chez vous, lisez la suite et vous verrez que, comment pourrait-on dire? C'est un homme soupaulé. Ça déborde très très vite. Et la question qui nous vient, c'est à travers ses irritations, à travers ses humeurs, quand il y a quelque chose qui va contre ce qu'il pense, ce qu'il croit devoir être bien, les plans qu'il s'est donnés, alors à ce moment-là, il se contrarie et puis il braque. Et on va le voir dans ce sens. Il correspond beaucoup à pas mal, il se rapproche pas mal d'individus, qui quelquefois, même avec Dieu d'ailleurs, on pourrait lui donner peut-être un titre à notre message, Jonas le rebelle. Alors, dans la société dans laquelle on se trouve aujourd'hui, ici ou ailleurs, c'est pas trop difficile de trouver des rebelles. Des gens qui contestent tout, des gens qui sont toujours en train de remuer les choses, en train de discuter en disant « moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça ». Faut-il qu'ils soient peut-être d'accord avec eux-mêmes, si c'est encore à prouver, quoi qu'il en soit. Ça, c'est Jonas. Nous allons dire également, pour présenter le personnage, c'est qu'il est du genre à faire le contraire lorsqu'il ne réalise pas tout simplement ce que lui pense. C'est pour ça que je vous ai parlé d'égoïsme. Lui, il a une idée bien conçue. Il se dit, c'est vrai que je suis prophète de Dieu. C'est vrai que je crois en Dieu. Mais j'aimerais bien que Dieu fasse et accomplisse ce que moi j'ai envie qu'il accomplisse. C'est-à-dire que lui c'est le grand et Dieu c'est le petit, en quelque sorte. Dieu est à son service, voilà, on pourrait peut-être présenter les choses de cette manière. Et il voudrait que tout le monde soit soumis à sa volonté, à ce qu'il pense et ce qu'il croit, parce que ce qu'il croit, rien d'autre et personne d'autre ne peut faire mieux que lui, de toute façon. Jonas va avoir, on peut le dire, et c'est un euphémisme, quelques démêlés avec Dieu. Parce que quand vous lirez la suite du récit, là, vous pourrez le faire quand vous voudrez, vous verrez que Dieu est Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a une pensée, et une pensée qui est toujours une bonne pensée, l'accomplissement de ses plans et de ses desseins, c'est toujours pour notre bien, et on ne peut pas avoir une idée que ça puisse être le contraire. Alors à ce moment-là, les rapports sont tendus. Parce que c'est un livre particulier, le livre de Jonas. C'est l'histoire d'un homme qui est en rivalité avec Dieu. Et on l'a dit, c'est des rapports tendus avec Dieu qui va le charger pourtant d'une belle mission. Ah, il n'y en avait pas tous les jours. Hein. Un prophète d'Israël auquel Dieu va s'adresser en disant « Tu vas aller maintenant dans un pays étranger, un pays éloigné, une capitale d'empire qui s'appelle Ninive. » C'est pas tous les jours qu'on a des missions comme ça quand même, non? Parce que quand vous regardez les prophètes d'Israël, ben, ils prêchent à Israël, ils prêchent dans Juda, mais ils vont très très peu à l'extérieur. Hein. Par contre, lui, il est l'unique, hein, on pourrait dire, hein, mis à part les grands patriarches et prophètes, comme on peut dire hein, Abraham, par exemple. Mais toujours est-il qu'il va avoir une vision unique, et Dieu va lui dire, écoute, et on l'a lu tout à l'heure, hein, il est dit, mais la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Exceptionnel. C'est un missionnaire, ça va être le premier de tous les missionnaires, même de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, qui va partir à l'étranger. Hein. Et là, le passeport, finalement, du ciel avec lui. Hein. Pour permettre à une population extrêmement nombreuse, pour l'époque, eh bien, d'entendre le message de Dieu, de se tourner vers Dieu, de se convertir, et surtout de changer de vie, parce que Ninive, c'est quand même une ville terrible. Comme quoi Dieu fait grâce. Comme quoi Dieu ne veut pas que des hommes qui font n'importe quoi, eh bien ils meurent dans leur faute et dans leur péché. Et Ninive a une réputation de cruauté, d'immoralité, de sang et de feu, toutes sortes de choses, terribles. C'est l'Antiquité, mais enfin, quand on regarde encore quelques décennies en arrière, les hommes sont aussi capables eh bien, de faire des cruautés et des choses atroces. Alors, Dieu le charge de cette mission. Et où son histoire est intéressante pour ce fameux prophète, et intéressante à bien des égards, c'est que cela nous enseigne encore, nous qui vivons des siècles et des siècles après Jonas, eh bien, c'est justement de démontrer que nous pouvons avoir parfois des états d'esprit ou une mentalité bourrée de préjugés, parce que c'est le cas, de contestation, d'opposition avec ce que Dieu a prévu de faire. Il y a un autre passage dans l'Écriture sainte qui nous dit que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Oui, c'est Dieu qui fait les choses. Vous savez, nous on a des programmes, on a des agendas, on a tout un service hein, de visibilité par exemple pour demain, pour après-demain, pour les mois et peut-être même des années. Mais de toute façon, l'homme, et c'est le livre de l'Ecclésiaste qui nous rappelle que l'homme n'est pas maître de son souffle, hein, quoi qu'il en soit. Alors on va le découvrir à travers tout ça. Et cela n'est pas sans nous rappeler un autre personnage avec une autre personnalité. J'ai quelquefois pensé à faire le rapprochement entre Jonas et l'apôtre Pierre. Parce que Pierre, c'est un tumultueux. Pierre, c'est un audacieux. C'est un homme qui a une foi spontanée. Remarquable. Mais à côté de ça, il en fait des fautes. Hein. Parce qu'il s'est trompé très souvent, Pierre. Hein. Et à se rappeler tout simplement eh bien, son reniement. Et pourtant, il avait dit quelques instants ou quelques jours avant, il avait dit à Jésus, mais jamais je te renierai. Mais Pierre n'avait jamais écouté le chant du coq. Et ce jour-là, il l'a entendu. Hein. Vous connaissez l'histoire. Alors, vous savez, quelquefois, et c'est bien pour nous de le signaler, de nous en remémorer, mais de remémorer l'histoire. Écoutez, un jour, Jésus dit à Pierre ces paroles, Jésus ressuscité, après la résurrection de Jésus, il dira, écoute, cette parole, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Voilà, parce que quand on est jeune, eh bien voilà, on se dit, à moi la vie, je fais ce qu'il me plaît, je fais ce que je veux. Et Jésus rappellera ça à Pierre. Il dit, mais tu faisais ce que tu voulais, et tu allais où tu voulais comme tu l'avais décidé, parce que c'était toi, parce que c'était ta personnalité. Mais Jésus ajoutera pour Pierre, il dira, mais quand tu seras vieux, quand tu auras pris un petit peu d'expérience, quand tu auras vu que la vie, eh bien, elle n'est pas entre tes mains, mais elle dépend de bien d'autres choses, alors à ce moment-là, eh bien, on te mènera là où tu ne veux pas aller. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Pierre, parce que le Pierre tumultueux de l'Évangile, à la fin de sa vie, on sait très bien qu'il avait certainement toujours la même foi, toujours la même ardeur, mais il avait appris à obéir et à écouter Dieu. Ce n'était plus du tout le même personnage. Ça fait comme Jacob, si vous voulez aller par là. Et pour nous rappeler encore une fois de plus, c'est que Dieu reste sans conteste le souverain de nos vies Quoi qu'il en soit, que nous croyons ou non en lui, c'est Dieu qui est maître, de toute façon, quoi qu'il en soit. Alors on va reprendre, ceci dit, on va reprendre un petit peu les caractéristiques de cette histoire. Voilà, Dieu dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ça ne vous rappelle pas une autre histoire de Sodome et Gomorrhe, d'un autre temps? Eh oui, même chose, en quelque sorte, hein, ou un rapprochement, disons. Donc, Dieu choisit un prophète pour dénoncer un état de mal dans la ville de Ninive. Crie contre. C'est-à-dire qu'il n'avait rien d'autre à faire que de dire, eh bien, attendez, si vous continuez à vivre et à mener la vie que vous avez, que vous menez aujourd'hui, mais ça va se retourner contre vous, ça va être une destruction. D'ailleurs, toutes les sociétés et toutes les civilisations se sont écroulées les unes sur les autres, les unes après les autres, à cause, bien souvent, eh bien, de cette dégradation immorale ou de toute cette perte des valeurs, en quelque sorte. Que ce soit les empires antiques, l'empire romain, c'est comme ça, hein, voilà, à un moment donné, ils ont été défaits après des siècles et des siècles de domination mondiale, et puis les uns après les autres. Hein. Voilà. Donc, il y avait un message qui devait passer par le prophète Jonas et qui devait atteindre finalement la ville de Ninive. Un peu plus loin, eh bien, là où Jonas se singularise, c'est à cause de son refus. Il nous est simplement rappelé, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Tarsis, c'est un peu de la part de cette région méditerranéenne qu'on appelle la Palestine, ça serait aujourd'hui l'Espagne. Voyez, c'est-à-dire le contraire, parce que Ninive, c'est complètement à l'est, à l'orient, alors que Tarsis, c'est complètement à l'ouest. Donc, loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo, qui est un port, hein, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous avez remarqué avec moi, ça fait deux fois qu'il est dit « loin de la face de Dieu ». Ah oui, quand les hommes, finalement, eh bien, fuient. Pourtant, ils savaient ce qu'il fallait faire, mais ils tournaient le dos, là. Et encore, si nous voulons faire un rapprochement, dans le jardin d'Éden, c'est pas ce qui s'est passé. Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu nu? C'est ce que Dieu dit. Je me cache, parce que j'ai honte. Ça, c'est l'histoire d'Adam, hein, en quelque sorte. Ça, c'est l'histoire de cette humanité qui, quelque part, refuse d'obtempérer, bien qu'il y ait des dispositions bienveillantes à son égard de la part de son Créateur, mais de dire, eh bien, Dieu m'appelle ici, moi je ferai exactement le contraire. C'est l'entêtement, en quelque sorte. Si nous poursuivons, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, il s'éleva sur la mer une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Ce que je pourrais appeler les tempêtes de la vérité. Si véritablement rien ne peut nous arrêter, et que nous arrivons à nous agripper aux branches, et que d'une manière ou d'une autre, les choses qui nous déplaisent et dans lesquelles, eh bien, nous n'avons aucune envie de satisfaire, eh bien, il y a des choses qui parleront. Certains diront, bah, c'est le hasard, c'est une coïncidence, c'est la nature. Mais vous avez remarqué, mais l'Éternel fit souffler un vent. Ça nous rappelle encore les disciples sur le lac de Tibériade, fit souffler un vent. Un vent, mais un vent impétueux, il faut bien le signaler. Parce que derrière la nature, il y a un message. Je ne veux pas dire qu'à chaque fois c'est ça, mais dans bien des histoires bibliques, encore Dieu est maître du temps et des circonstances. Un message. Et non pas pour tout le monde, mais un message pour Jonas dans la circonstance. Alors il a pris un bateau, il a payé le prix du transport, et puis il était là en disant, maintenant, allez, ma mission terminée, je fais ce que je veux. Mais il y a quelque chose qui va se passer, c'est que le naufrage, le péril, eh bien, est imminent. La suite nous le rapporte. Les mariniers eurent peur et implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Alors il y a quelque chose quand même d'assez comique dans cette affaire, surtout dans la deuxième partie de ce que je viens de lire. C'est qu'il y a là, en effet, eh bien, c'est pas Jonas qui a peur. C'est ceux qui sont sur le navire, Paul, vous savez, sur le navire qui l'emmenait à Rome. Heureusement qu'il y avait un croyant, hein, ce jour-là, dans ce navire qui partait de Césarée pour aller jusqu'à la ville impériale de Rome. Mais là, nous retrouvons à peu près la même configuration. Ce sont les marins. Ils ont eu peur. Pourtant, ce sont des gens avisés. Ce sont des gens qui ont quand même l'habitude des coups de tabac, des coups de vent. Hein. Alors, ils ont eu peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Ils avaient peur de mourir. Eh oui. Remarquez, c'est vrai que on le voit encore cette semaine avec ce naufrage de ce ferry, vous savez, qui faisait la traversée là en Corée, avec 400 et quelques personnes, et des jeunes en particulier, qui sont passés par le fond. Hein. C'est terrible, c'est affreux. Hein. Ou comme cet avion là qui s'est scratché, on ne sait plus où, on ne sait pas où il est passé. Hein. Mais voilà. Mais c'est tout à fait naturel la peur de mourir. Quand on a la vie, on la garde. Enfin, on fait tout pour la préserver en tous les cas. Et vous avez remarqué avec moi, il nous est simplement dit qu'ils implorèrent chacun leur Dieu. Et nous sommes à assister là à la prière païenne et écuménique avant l'heure. Eh oui, chacun s'est mis à prier son Dieu. Il y avait certainement différentes nationalités parmi les voyageurs, et puis aussi parmi les marins, probablement. Et chacun y allait avec ce qu'il connaissait, vous comprenez? C'est curieux cela. Chacun son Dieu. Quelle confusion dans ce monde, hein. C'est un véritable labyrinthe, comment peut-on nous y retrouver? Les uns c'est un tel, les autres c'est un tel, et avec tout ce qu'il peut y avoir finalement, eh bien de compartiments, de sous-compartiments et tout ce que vous voudrez. Ouais. Mais vous savez que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ouais, qui a créé le ciel et la terre, qui est maître de l'univers, qui est créateur de tout. C'est la Bible qui nous le dit. Et quand Dieu dira, dans la prescription des 10 commandements, il dira à Moïse, tu diras au peuple d'Israël, tu n'auras devant ma face qu'un seul Dieu. Alors aujourd'hui, on pourrait se poser la même question, mais est-ce que les temps vraiment ont évolué? Quand on voit qu'hier, du temps de Jonas, chacun avait ses pénates, chacun avait ses dieux, et puis ses demi-dieux ou ses faux-dieux, enfin c'était surtout des faux. Et qu'aujourd'hui, on voit la même chose. Que vous tourniez vers l'Orient ou l'Occident, vous avez l'islam, vous avez le bouddhisme, vous avez le christianisme. Il y en a d'autres, hein. Ça c'est pour les grandes divisions, si vous voulez, ou les grandes dénominations. Chacun a son Dieu. Alors dans la peur, est-ce qu'il faut attendre d'avoir peur? Est-ce qu'il faut attendre le paroxysme, finalement, eh bien, de la mort, pour implorer, pour prier? C'est la question qui est posée, hein, naturellement. Chacun leur Dieu. Et on peut dire que c'est du sauf qui peut à ce moment-là. Ouais, sauf qui peut. Mais surprise, où est Jonas dans cette affaire? Écoutez, je le relis. Hein. Jonas descendit au fond du navire, il se coucha et endormit profondément. Alors moi, ça me laisse perplexe. Parce que quand il y a une tempête, ça m'est arrivé de traverser plusieurs fois la Manche, et puis prendre le bateau pour autre part, hein. Faire des traversées comme ça, je n'ai vraiment pas le pied marre. C'est affreux. Je me souviendrai toujours d'une traversée il y a une vingtaine d'années, entre Douvres, dans Southampton, et puis Boulogne, je ne sais plus, Mala. Ça, vert. La mer était noire, mais moi j'étais vert. Pendant toute une nuit comme ça. Parce que c'est curieux, hein. C'est curieux quand même, parce que rien ne bouge. Et j'étais pas tout seul, parce que tout le monde était couché par terre. Et... c'est affreux. Il n'y a qu'une chose que l'on aspire, c'est que véritablement on arrive au port. Et je vous dis dans quelles conditions. Ça, c'est la plus terrible des... Je crois qu'il y avait un vent de force 9. Sérieux, hein. C'était en mois de novembre. Ouais. Oh là 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 là. Je peux vous dire que personne ne faisait les fiers à ce moment-là. Tout le monde avait la tête dans le sac. C'est terrible. Enfin, moi, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, parce que marin comme je suis, je pourrais vous en dire des choses terribles. Mais toujours est-il que lui, il dormait. Je ne sais pas comment il a fait. Hein. C'est comme Jésus, vous savez, quand il était dans la barque. Vous vous souvenez? Il nous est dit que les disciples étaient complètement effrayés sur la barque, sur le lac de Tibériade. Et il nous est dit que lui dormait tranquillement sur le coussin. Oh là là, c'est quelque chose. Mais toujours est-il qu'il était là. Je ne sais pas où il avait été pris des médicaments, des somnifères. Hein. Oh. Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que cela illustre la fameuse expression que vous connaissez, se mettre la tête dans le sable. Vous savez, quand on peut avoir le danger, quand on est coupable, quand on a quelque chose à se reprocher, quand on a peur peut-être de la vindicte, quand on a peur de ceci ou de cela, lui, eh bien, discrètement, alors que tout le monde est en train de prier son Dieu sur le pont et que tout le monde ramassait les embruns, lui, il était bien tranquille, dans le fond, en fond de cale, et il ne priait pas, il dormait, hein, la tête dans le sable. Ou faire l'autruche, ça revient au même. Hein. Ouais. Il est descendu, alors qu'il aurait peut-être pu faire monter vers Dieu une prière. C'est pas mal. Et puis, il était couché. Dans les cas de panique, il faut être debout. Hein. C'est pas la peine de se coucher, hein, parce que c'est la mort assurée. Et lui, il dormait, peut-être pour oublier, parce qu'il savait très bien ce qui se passait. Si les autres se posaient la question sur le navire qui était en perdition, eh bien, lui, en tous les cas, il savait pourquoi. Il le savait, naturellement. Ou alors était-il terriblement culpabilité, il s'est dit, moi, je tire les rideaux, je ferme la porte, et c'est terminé, adviendra ce qu'il adviendra. Et après moi, vient le déluge, hein, pourrait peut-être le dire comme ça. C'est une façon de réagir, hein, de toute façon. Un peu plus loin, il nous est simplement rapporté que le pilote s'approcha de lui, parce qu'ils l'ont cherché, hein. Ils lui ont dit, mais où il est ce prophète-là, ou cet homme? Il s'est approché de lui et lui a dit, mais pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être ton Dieu voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Voilà une question qui est à propos, hein, qui va remuer certainement là, eh bien, notre Jonas, qui va le sortir de son sommeil. Pourquoi dors-tu? Et invoque ton Dieu. Et ainsi et alors, ce qu'il faudrait dire, vu sous l'angle du pilote, que n'importe quel Dieu pourrait-il faire l'affaire? Eh oui, comme beaucoup de gens pensent, qui vont ici, qui vont là, qui vont dans telle église, dans tel sanctuaire, dans telle chapelle, dans tel temple, etc., etc., que c'est du pareil au même. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle du syncrétisme. C'est à celui qui répondra, c'est à ce Dieu-là qui répondra que je me vouerai, que je ferai des prières, que j'adorerai. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On revient toujours à cette affirmation biblique qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas 36. Parce que quand vous écoutez un peu les gens, ils vous disent, oh ben vous savez, quand ils écoutent un petit peu notre démarche, nos convictions, souvent, ils s'empressent de dire, mais on a le même Dieu. Hein. Ben, moi, je veux bien, ça ne me dérange pas. Mais en tous les cas, moi, je connais mon Dieu. Je connais mon Sauveur. Je connais celui qui est Seigneur de ma vie. Je sais ce qu'il me dit. Je sais ce qu'il m'a appris. J'ai connu par l'expérience pratique que c'est un Dieu vivant. Et non pas un Dieu statue. Non pas un Dieu que l'on invoque dans un endroit et pas dans un autre. Qui n'a pas besoin de pèlerinage. Qui n'a pas besoin d'une dévotion superstitieuse, qui n'a pas besoin qu'on lui fasse des dons et des offrandes. Puisqu'il nous dit, mais l'or et l'argent est à moi, le monde est à moi, alors qu'est-ce qu'il aurait besoin? Et pourtant, les hommes n'ont jamais cessé de faire des temples de pierre, avec une belle architecture, avec des sanctuaires d'or et d'argent, avec des choses précieuses. Mais Dieu remplit le ciel et la terre, son temple. Qu'il est autour de nous alors? Pourquoi? Et pourtant, eh bien, ça relève d'une chose. Ça relève d'une chose terrible dans notre humanité. Et ça relève d'une chose qui est d'autant plus terrible pour les chrétiens, enfin de ceux qui sont de culture chrétienne, ceux qui appartiennent soi-disant au christianisme. Et ça, c'est terrible de savoir, ça s'appelle tout simplement l'ignorance. Mais nous ne sommes pas obligés de rester ignorants. Nous le restons si nous le voulons. Parce que moi, je crois que Dieu parle au cœur de l'homme. Il parle à travers la nature et sa beauté, sa grandeur et sa puissance. Ça, c'est le grand livre de la nature. Mais Dieu est capable aussi de parler intimement à ma propre vie. À travers si je crois ou je ne crois pas. À travers mes besoins que je peux lui porter et les réponses que l'on peut recevoir de lui, ça s'appelle tout simplement un exaucement. Et puis Dieu n'a jamais parlé autant qu'à travers ce livre que l'on appelle la Bible. Du début jusqu'à la fin, et particulièrement la fin, c'est-à-dire la deuxième partie, où Dieu va se révéler comme un Dieu qui aime les hommes, qui est venu pour se sacrifier, pour le salut des hommes, à travers la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit que Jésus, dans le livre des Hébreux, il est le reflet et l'empreinte, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. À la question qu'un jour un disciple viendra vers Jésus dans l'évangile de Jean, et ce disciple qui s'appelle Philippe, si je ne l'oublie pas, il dira « Mais montre-nous le Père » dira-t-il à Jésus. Jésus répondra ceci « Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi, parce que je suis la vérité, je suis le chemin et je suis la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc quand on voit Jésus, quand on s'imprègne de la personne de Jésus, quand on prend sa parole, quand on croit à ses promesses, mais c'est tout simplement, et c'est Dieu. C'est Dieu incarné, Dieu crucifié, et Dieu ressuscité, et Dieu glorifié, et un Dieu qui revient bientôt. C'est ça la révélation. Elle est tout à fait, eh bien, ce qui est nécessaire aux hommes. Et on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup, on n'a pas besoin d'être un érudit biblique, on n'a pas besoin d'être un théologien biblique. Le peu que nous sachions, la conscience que Dieu a mis dans notre cœur, elle nous dit, elle nous crie que Dieu est vivant, que Dieu est vrai. Et ce qu'il nous dit, c'est sa parole, donc sa parole est vraie. Parce que Dieu ne ment pas. Tout simplement. Alors, y aurait-il d'autres dieux ? Eux, chacun priaient leur Dieu, et le pilote dit à Jonas, « Prie ton Dieu, peut-être qu'avec lui, on aura quelque chance. » Il ne faut pas confondre entre la chance et la grâce. La grâce, c'est autre chose. La grâce, c'est un cadeau. La chance, c'est le hasard. On va en reparler d'ici quelques instants. Parce que l'ignorance et la chance engendrent la méthode du hasard, puisque nous allons le voir et le découvrir tout de suite, quand il est dit au verset 6, cette parole, « Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas », le verset 7 ajoute, « Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba, bing, sur Jonas. Boum, boum, pauvre Jonas. Lui qui s'était tellement bien caché derrière les tonneaux, derrière les cordes et les cordages du navire, coucou, je suis là. Eh oui, écoutez, pour un chrétien, le hasard n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Moi, pour moi, le hasard n'existe pas. Si vous croyez que je suis chrétien. Mais toujours est-il que ça, ce sont les hommes qui ont inventé. C'est au petit bonheur la chance. Comprenez ? Voilà. Parce qu'avec le hasard, ça peut être bien. Mais quelquefois, ça peut être catastrophique si je me livre à je ne sais quelle force inconnue, invisible, qui me dépasse, qui dépasse ma compréhension, mais dans quel monde je suis, et à quoi et entre quelles mains je suis livré à ce moment-là. Parce que s'il y a un Dieu, il y a un diable. Hein ? Ah ouais. Et moi, je crois que ce serait plutôt un peu sa spécialité, le hasard. Avec l'occultisme, avec la magie, avec les diseuses de bonne aventure, ceux qui tirent les cartes, la boule de cristal, le hasard. Et pour un chrétien, ce n'est pas ça, précisément. Ce n'est pas ça du tout. Et ils ont cherché le coupable. Ça ne s'est pas fait attendre pour savoir comment et pour savoir pourquoi. Et le sort tomba, j'allais dire malheureusement, sur notre Jonas. Poursuivons encore un peu plus loin. « Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» C'est un interrogatoire qui va être mené à l'encontre de Jonas, à l'encontre du présumé coupable endormi. On pourrait dire ça comme ça, si vous me le permettez. Là, il va être réveillé, hein, je peux vous le dire. Tout simplement. Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait le ciel et la terre. Enfin, un beau témoignage à la vérité, qui va être rendu par Jonas. » Là, il sent que de toute façon, ce n'est plus la peine de jouer la comédie. Ce n'est pas la peine d'aller certainement plus loin. Et il va passer aux aveux, il va dire qui il est, d'où il vient, etc. Et d'une manière assez ironique, il va dire « Je crains l'Éternel ». Ben, il ne devait pas le craindre beaucoup. Hein. Parce que quand Dieu lui dit « Tu vas aller ici » et il va de l'autre côté, on ne peut pas dire que c'est une obéissance parfaite. Hein. Ça serait même plutôt très endommagé, son obéissance. Alors, On va voir ce qui va se passer ensuite. Ces hommes eurent une grande frayeur de ce que Jonas leur avait dit. Je suis hébreu, je viens de tel, et je crains le Dieu des cieux. Alors là, ça va les laisser réfléchir, parce que vous allez voir qu'ils avaient leur Dieu, mais là, à ce moment-là, leur Dieu, ils vont s'effondrer, il ne va plus en rester qu'un. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils se dirent, mais pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, c'est ça ce qui leur a fait peur. Si Jonas ne craignait pas Dieu, ces païens craignaient Dieu. Enfin, ce qu'ils pouvaient savoir qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Là, ça remettait les choses un petit peu en place. Parce qu'il leur avait déclaré, ils lui dirent, mais que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Ah, problème. Vous avez remarqué que quand il est question de Dieu, est-ce que de parler de Dieu ferait-il peur aux gens? Eh bien, moi, je réponds oui. Allez dans la rue. Vous allez voir un peu. Vous leur parlez de Dieu, même si vous leur parlez correctement de Dieu et tout à fait comme il faut, vous verrez, ça leur fait peur. Ils ont des peurs, ils ont des craintes. Il y a quelque chose qui est enfoui intérieurement, au plus profond d'eux-mêmes, et il suffit de prononcer le mot de Dieu, même si vous ne parlez pas de jugement, même si vous parlez de la grâce, eh bien, ils ont peur de la grâce. Ils ont peur d'une manifestation de Dieu. Ils ont peur que Dieu les bénisse. Ils ont même peur que Dieu les sauve. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ça, c'est terrible. D'ailleurs, à chaque fois que dans le Nouveau Testament, on voit des interventions divines sur les uns, sur les autres, je pense à quel qui pourrait me venir à l'idée, à Pierre par exemple, ou à d'autres, à chaque fois, ils sont saisis de frayeur. Et Dieu et Jésus est obligé de leur dire, mais ne craignez point. Je ne suis pas venu pour vous tuer, je ne suis pas venu pour vous faire mourir, je suis venu pour vous sauver et vous bénir. C'est ça la question. Hein. Toutes les choses sont là. Hein. Parce que est-ce que Dieu est rassurant ou est-ce que Dieu est terrifiant? Ben, quand on a enseigné des générations et des générations que Dieu était un père fouettard et un Dieu qui condamne et qui punit les hommes, alors après on peut certainement avoir des réactions de ce genre. Mais si nous apprenons à connaître ce Dieu, eh bien nous verrons que c'est un Dieu paisible. C'est un Dieu de sagesse, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de miséricorde, et avant tout, c'est un Dieu qui aime pour nous sauver, même si nous ne méritons pas grand-chose, ou rien du tout, de toute façon. Mais tout dépend de l'attitude de chacun, quelle est la position de notre cœur devant tout cela, et comment conjurer le sort, entre parenthèses, c'est un mot que je n'emploie pas pour moi, conjurer le sort. Vous savez que Jésus nous raconte une histoire semblable. Dans l'évangile de Luc, me semble-t-il, quand il parlera qu'un jour des gens sont venus l'aborder en disant « Mais on voudrait te dire, tu sais, Pilate avec ses soldats ont tué des Galiléens. » Vous connaissez l'histoire dans la Bible, hein ? Ils les ont massacrés. Et puis un jour, un autre jour, il y a des gens qui étaient sous la... 18 personnes sont mortes parce que la tour de Siloé, à Jérusalem, s'est écroulée sur elle. Et la question qui a été posée dans les deux fois, c'est « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mourir ? C'était des innocents ?» Vous savez ce que Jésus va répondre? Il va dire, si vous ne vous repentez pas, vous également, ben vous périrez de même. Parce que le problème, ce n'est pas de savoir ceci et cela. Bien sûr, c'était des innocents dans l'histoire que Jésus nous raconte. Mais le problème, pourquoi les hommes meurent-ils? Ils meurent parce qu'ils sont tout simplement des pécheurs. S'il n'y avait pas eu le péché, on ne passerait pas par la mort. La mort et son cortège, la mort et ses drames et ses souffrances, et tout ce qu'il peut y avoir d'affreux dans la mort. C'est parce que c'est notre condition qui est comme ça. Autrement, on ne connaîtrait pas ça. Et Jésus va leur répondre, mais si vous ne vous repentez pas, vous également, si vous ne demandez pas pardon de vos péchés, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas de vie, eh bien vous périrez également. Donc Jésus, c'est cette histoire. Alors, on pourrait penser que Jonas, c'est le bouc émissaire, et c'est le paratonnerre dans cette affaire. Oui, en quelque sorte. Parce qu'on va voir un peu la suite, parce que c'est quand même... de voir un petit peu au verset 13, « Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. » Voilà, c'est tout simplement le verset 12, pardon, excusez-moi, le verset 12 que je reprends. Il nous est simplement rappelé, donc, « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Alors, en fait, de bouc émissaire, nous sommes à Pâques, et en fait, de paratonnerre, eh bien, il existe. Et on va en parler maintenant, justement, à travers le verset 13, parce que quand les hommes cherchent par eux-mêmes, ils ne trouvent pas. Et on le verra au verset 14. Ces hommes donc ramaient, mais ils ne le purent pas parce que les vents étaient contraires, nous l'avons dit il y a un instant. Nous avons là, dans ces versets, tous les efforts humains qui sont rendus vains lorsque Dieu n'est pas, que nous n'avons pas pris Dieu avec nous. On peut faire beaucoup de choses dans ce monde. On peut faire des choses extraordinaires. On peut même envoyer des vaisseaux très très loin dans l'univers. Enfin, on ne va pas très loin encore, mais en tous les cas, on peut faire. Toutes sortes de choses ont été faites par l'intelligence que Dieu a donnée, dont il a doté l'homme, des facultés particulières. Mais tant que c'est pour nous, tant que ça reste confiné sur nous, pour notre gloire personnelle, alors à ce moment-là, on peut ramer. Parce que les vents sont toujours contraires et de plus en plus. Mais pourquoi cet épuisement? Parce que les hommes doivent apprendre qu'ils touchent le bout du bout, c'est-à-dire qu'ils s'épuisent pour dire, eh bien, nous avons besoin de quelque chose d'autre que nous, que nos efforts, que notre volonté, que notre détermination, nous avons vraiment besoin de Dieu dans notre vie. C'est lui qui va faire la différence. À ce titre, Jésus dira tout simplement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça fait rire les gens, ça. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que avec la technologie, les découvertes que l'on fait, les gens se disent, dis donc, ça fait 2000 ans qu'il nous a dit ça, il y a bien longtemps qu'on ne l'a pas entendu, pour faire quelque chose. Mais ce n'est pas de ça dont Jésus voulait parler. Ce n'est pas des belles réalisations à la gloire des hommes. Ça peut se faire. Parce que c'est justement encore ce qui dénote que Dieu a donné. Finalement, et bien là, une intelligence, c'est que l'homme est une créature de Dieu supérieure aux animaux. Mais c'est sur le plan moral et spirituel que là, nous ne pouvons rien faire sans lui. Là, nous ne pouvons rien faire. Dans ce domaine, on est complètement incompétent. Alors, ce verset qui nous est donné, alors à ce moment-là, et bien nous touchons du doigt la solution universelle. Et la solution universelle, c'est ce que nous allons vivre ces quelques jours. La solution universelle, c'est la croix. C'est Jésus, c'est Dieu qui s'incarne et qui meurt à notre place à la croix du Calvaire. C'est Pâques. Pâques, vous savez ce que ça veut dire? Passer outre, c'est le passage épargné. C'est ça. Et Jésus a été condamné pour que nous soyons épargnés. C'est comme à la sortie des Hébreux d'Égypte. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, l'histoire est venue de là. Est-ce que nous allons rencontrer Jésus comme notre juge ou comme notre sauveur? Si nous le rencontrons comme notre juge, alors c'est la loi. C'est la loi, le juge. Mais si nous le rencontrons et si nous l'acceptons comme notre sauveur, c'est la grâce. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à payer. Notre dette est acquittée complètement et totalement. Il y a une transposition spirituelle derrière tout cela. Pour nous montrer qu'alors, ils invoquèrent l'Éternel et ils dirent, ces hommes qui étaient finalement assez vertués à ramer, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. » Vous avez vu? Ils ont abandonné leur prière de chacun, cette fameuse prière païenne et écuménique, pour parler maintenant de l'Éternel. Ils le disent. « Ô Éternel !» Ben moi, je dis que Jonas, il a fait quand même un drôle il a fait un sacré coup, là. Parce qu'il devait évangéliser à Ninive, et finalement, il a évangélisé le bateau. Comme quoi? Oh là là, les voies de Dieu sont impénétrables. Eh ouais, c'est incroyable. Il va, contrairement à sa volonté, il ne voulait pas aller à Ninive. Il a pris un bateau en disant, moi je vais fuir finalement, et bien tout ça. Et c'est là qu'il va apporter le message de Dieu, parce qu'il se met à invoquer l'Éternel, le Dieu de Jonas. Alors ça ne veut pas dire, mes amis, que quand vous rendez témoignage et que vous ne voulez pas rendre témoignage, et que vous dites n'importe quoi, que le Seigneur va bien ce que vous allez dire. Non, mais il y a des leçons derrière. Il y a des leçons. Qu'est-ce que la parole de Dieu est intéressante et elle est extraordinaire, vous vous rendez compte? Alors ils vont dire, ils vont prier, moi j'aime bien cette prière, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr. » C'est truculent comme histoire, moi j'aime bien. Pour dire tout simplement que sans un abandon de notre vie, ou sans confiance, sans acceptation ni confession de notre véritable foi en Dieu, le pardon et la délivrance ne peuvent pas exister. Il faut accepter ce que Dieu nous demande. Et à ce moment-là, quand l'homme capitule, bien Dieu se met en route pour nous délivrer et faire nous donner la bénédiction dont nous avons besoin, tout simplement. J'aime bien dans ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est qu'ils ne vont plus prier leur Dieu respectif, mais le Dieu des cieux. Ils vont l'appeler même éternel, celui qui a donné sa vie, celui qui est vivant, il est ressuscité, il est vivant, pour sauver même les coupables. Et en fait, de coupables, écoutez, est-ce que peut-être vous attristez de la situation de Jonas ? C'est pour ça qu'il faut traduire la suite, hein, aux autres chapitres. Puis ils prirent Jonas, là ils ne vont pas lui laisser le choix, hein, et ils le jetèrent dans la mer. Et, chose curieuse, c'est que la mer s'est apaisée. C'était bien lui. Hasard, réponse à la prière, même des païens, Jonas. Ils ne vont pas laisser le temps de mettre ses palmes, ni mettre ses bouteilles, finalement, d'oxygène. Rien du tout, même pas le tuba, hein. Rien du tout, hop, dans l'eau. Et c'est lui qui l'avait demandé, hein, pour dire qu'il était certainement en grande dépression, je veux mourir. Hein. Ouais, il est passé par-dessus le bastingage. Hein. Alors, je ne vous dis rien de la suite. Si vous avez fait les clubs d'enfants, vous savez ce qui s'est passé. Ça, c'est l'histoire qu'on raconte, hein. C'est comme l'Arche de Noé. Mais toujours est-il que, moi, je voudrais vous dire, on va faire un petit peu de suspense, mais je voudrais vous dire qu'il est passé à l'eau, mais il n'est pas mort. Oh, quelle histoire que cela nous raconte. Jésus dira, comme Jonas qui fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les antres de la terre, dans le tombeau. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Christ est ressuscité. Faut avoir la foi, hein. C'est vrai. Mais derrière, il y a toute une leçon. Une formidable leçon. Parce que, pour beaucoup, la Bible, c'est une légende. Ce sont des choses que l'on raconte pour endormir les petits-enfants le soir. Mais c'est pas ça. La Bible est une puissance, et Paul dira, le grand Paul, l'apôtre Paul dira, mais je n'ai pas honte de l'Évangile parce que c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Alors Jonas, il a eu son histoire. Et puis, tout ça nous ramène à Jésus. Hein. Tout ça nous ramène à Jésus. C'est une image prophétique que nous avons justement à travers cette jetée dans la mer jusqu'au tout accompli de Pâques. Le tout accompli de Pâques. Vous savez, vous vous souvenez qu'il y a eu 7 paroles à la croix. 7 paroles que Jésus a données avant de rendre l'esprit. Et la dernière, vous savez ce que c'était? 3 mots. Tout est accompli. La boucle est bouclée. Le salut de Dieu est venu parmi les hommes. Tout a été fait pour que nous puissions croire que Jésus est notre Sauveur. Et si nous le croyons, nous sommes pardonnés, nous sommes sauvés et nous avons l'assurance de la vie éternelle. Tout est accompli, on n'a rien à faire. Ce n'est pas la peine de prier nos dieux et ceci et cela. Ça ne sert à rien. Ce sont des vaines redites, comme nous dit Jésus dans le sermon sur la montagne. Ça ne sert strictement à rien. Le tout accompli de Pâques. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, tout simplement de croire. De croire comme un enfant. De croire de tout mon cœur. De croire que Jésus est mort à ma place, qu'il a donné sa vie, et qu'aujourd'hui, si moi je vis, c'est parce qu'il est mort. Mais non seulement il est mort, mais je sais qu'il est ressuscité. C'est pour ça que je peux le prier, je peux l'adorer, je peux le servir tous les jours parce que je m'adresse à un Dieu vivant. C'est ce que ça veut dire le mot résurrection. Et je termine. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Vous vous rendez compte, ils sont passés de la frayeur de la tempête à un respect de Dieu. Bravo, hein ? Formidable, hein ? Est-ce que nous n'avons pas fait cette expérience nous-mêmes ? Quand nous étions sans Dieu, sans espérance, que nous nous débattions avec nos croyances, nos superstitions et tout cela, mais nous avions peur, nous étions quelquefois dans la frayeur, à commencer par la mort, ou le mal qu'on pourrait nous faire. Mais à un moment donné, lorsque il y a eu un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ pour nous, mais le jour où nous avons rencontré Jésus-Christ, nous pouvons dire qu'il y a eu ce respect, cette crainte pour Dieu maintenant. Parce qu'il est mon Dieu. Parce que je sais qu'il est mon Sauveur. Ce n'est pas la crainte de trembler devant lui. Mais c'est la crainte, finalement, d'être devenu son fils ou sa fille, son enfant. Parce que je sais que j'ai un Dieu qui m'aime, comme moi je ne saurais jamais l'aimer autant qu'il m'aime. Alors c'est pour ça qu'il y a cette crainte, la crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice et ils firent des vœux. Sacrifice, des vœux, et ils ont été saisis. Ne serait-ce pas avant le temps ce qu'on pourrait appeler la conversion, quelque part? Vous savez ce que c'est que la conversion? Alors je termine sur ça. Au XIXe siècle, dans les armées françaises et ailleurs, en tous les cas dans l'armée française, quand on faisait défiler les soldats, eh bien, on leur disait « conversion », c'est un terme militaire. Ils allaient à droite, et à un moment donné, conversion, ils allaient complètement dans le sens contraire. Conversion, ça veut dire changer de vie et changer d'avis. Et à partir du moment où la parole de Dieu est venue dans mon cœur et je l'ai compris, et j'ai mis toute ma foi et toute ma confiance dans cette parole, dans la personne de Jésus, j'étais pas militaire, mais en tous les cas, je me suis converti. J'ai changé de direction, j'ai changé d'avis et j'ai changé de vie. Que Dieu nous bénisse ce soir, que Dieu nous donne sa grâce. Et vous vous souviendrez de Jonas, hein? Colombe, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité, parce que ta parole, elle est merveilleuse. Il y a des choses formidables et extraordinaires dans ces mots, dans chaque livre, dans ces paragraphes, qui nous rapportent l'histoire d'hommes, de femmes, qui, Seigneur, ont fait une belle expérience avec Dieu. Même les plus rebelles, même ceux qui étaient les plus récalcitrants, comme Jonas, eh bien, tu as permis véritablement d'en faire un témoin. Et puis, lorsque nous suivons l'histoire de ce prophète, nous apercevons que ce sont des centaines et des milliers de personnes qui se sont tournées vers le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, et qui ont entendu, qui ont reçu cette parole, le message de Jonas, et qui sont devenus de nouvelles créatures. Oui, nous te bénissons et nous te remercions, parce qu'aujourd'hui, dans notre monde tel qu'il est, un monde qui se dit chrétien, un monde où il y a une confession du christianisme, mais où on a enlevé le cœur même de ce christianisme, Jésus-Christ mort pour nos péchés, mais ressuscité pour la vie éternelle, pour notre vie éternelle. Alors nous te bénissons et nous te rendons grâce. Bénis cette parole, qu'elle fasse du bien, qu'elle permette à des gens de se convertir, qu'elle permette à des gens de trouver, Seigneur, le pardon de Dieu, la paix avec Dieu, le bonheur pour cette vie présente, et aussi, Seigneur, pour celle à venir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.